agrafeuse, stylo, carnet, crayon. La routine. Il était clair qu'il se ferait buter tôt ou tard, poursuivit Parrish. Il a dû énerver quelqu'un, rouler quelqu'un, vendre de la cam pourrie, vous voyez. Le mystère, c'est la sœur. C'est ça qui n'est pas logique. Elle se fait étrangler, et lui se fait descendre quelques heures plus tard. C'est une coïncidence que je ne peux ignorer. Vous avez des photos? Demanda Radic. Pas encore. Un compte-rendu d'autopsie? On passe le récupérer aujourd'hui. Vous dites qu'il a été tué d'une balle sous le menton? Exact. Ça ressemble plus à une exécution. Certes, mais ces zouaves regardent la télé. Ils deviennent créatifs. Vous savez, ils ont le goût de la mise en scène. On peut aller la voir. Pas de problème. Dugan, le coroner adjoint qui avait répondu à l'appel, n'était pas présent. Parrish tomba sur quelqu'un d'autre. Il demanda à voir Rebecca Lange. Vous pouvez attendre 10 minutes, je m'occupe d'une autre personne en ce moment et je vais devoir vous accompagner. Ils attendirent 20 minutes, faisant les 100 pas dans le couloir, mains dans les poches, sans dire grand-chose. Le type revint, les fit entrer dans la salle 4, les guida à travers les frigos et ouvrit un tiroir. Jolie fille en effet, fut le premier commentaire de Radic. Il se pencha en avant, approcha son visage à quelques centimètres de celui du cadavre, comme s'il espérait élucider le mystère de sa mort en touchant sa peau. Puis, il remarqua ses ongles. « Les orteils sont pareils, » déclara Parrish. « Un travail de professionnel. »« Elle a été violée. »« Non. »« Elle a eu des rapports sexuels, mais pas de viol. »« Elle ne se prostituait pas. »« Ça m'étonnerait. Pas avec son apparence, ou alors c'était une vraie débutante. »« Je n'ai jamais vu une prostituée aussi jolie. » Mais elle paraît plus jeune que son âge, observa Radic. Vous le trouvez? Mon frère a 3 filles, 11, 13 et 15 ans. Elles passent tout leur temps à essayer d'en paraître 25. Sa coiffure fait jeune pour une fille de 16 ans. On dirait qu'elle en a 12 ou 13. Ça ne colle pas avec le vernis à ongles. Et ses vêtements? Elle était en sous-vêtements quand je l'ai découverte, répondit Parrish. Il y avait des vêtements à elle dans l'appartement de son frère? Aucune idée. Je n'y suis pas retourné. J'ai eu hier la confirmation de la cause du décès, des résultats des recherches de traces de viol, l'analyse du contenu de l'estomac, rien qui sortait de l'ordinaire. Parrish referma la housse mortuaire, repoussa le tiroir dans lequel reposait Rebecca, demanda avant de partir le rapport d'autopsie de Danny Lange. Rien qui nous aidera là-dedans, déclara-t-il après l'avoir parcouru. La balle était plate comme une crêpe. Il replia le document et l'enfonça dans sa poche de veste. Allons voir l'appartement. Radic refusa d'emprunter l'escalier. 9 étages, dit-il. Hors de question. Ils prirent l'ascenseur, qui vibra et cahota pendant toute la durée de la montée. Parrish avait toujours la clé de l'appartement, même si le mot « appartement » suggérait quelque chose d'autrement plus fonctionnel et engageant que le spectacle qui les accueillit. « Je n'arrive toujours pas à comprendre comment les gens peuvent vivre comme ça », déclara Radic. Il enfila des gants en latex, entreprit de retourner des boîtes de poulet frits couvertes de graisse, des conserves vides, trouva une tasse avec un fond de café sous 2 centimètres de moisissure. « La fille n'a pas dû se trouver ici longtemps, » observa Parrish. « Très peu de filles toléreraient une telle porcherie. Je parie qu'elle aurait fait un peu de ménage. Vous pensez que quelqu'un a pu la tuer avant de le buter lui, parce qu'il pouvait identifier la personne qui l'avait étranglée ?» Parrish ne répondit rien. Il était à 4 pattes, examinant le bord de la moquette. Radic haussa les épaules. Il se rendit à la chambre où la fille avait été découverte. Il tira un petit appareil numérique de sa poche de veste et prit quelques photos. « Vous en prenez toujours ?» demanda Parrish en pénétrant dans la pièce. « Ça aide d'en avoir en plus. Parfois, je ne peux pas attendre que les clichés de la police scientifique soient livrés. » Parrish le laissa faire, apercevant du coin de l'œil le flash chaque fois qu'il se déclenchait. Il enfila à son tour des gants, s'attaqua à la cuisine, fouillant dans les tiroirs, inspectant le four, le micro-ondes. Les placards étaient pour l'essentiel vides. Une conserve de chili con carne, une autre de haricots rouges, une boîte de riz à moitié vide. Dans le réfrigérateur, il trouva un œuf et une brique de lait périmée depuis 5 jours qui commençait déjà à gonfler un peu. Sur l'étagère d'en dessous se trouvaient une demi-laitue enveloppée dans du film plastique et 3 tranches de pain au son rance, dur, à moitié ratatiné. Radic s'était demandé comment les gens pouvaient vivre comme ça. « Facile, » songea Parrish, vu que son réfrigérateur ressemblait beaucoup à celui-ci. Il ignorait ce qu'il dénicherait ici, d'autant que la police avait déjà passé les lieux au crible. Mais il continuait néanmoins de chercher. Une demi-heure plus tard, Radik avait terminé. J'ai ce que je voulais, annonça-t-il. Qu'est-ce que vous comptez faire maintenant? Eh bien, nous devons identifier cette femme à Williamsburg, trouver le lycée de Rebecca, parler à ses amis, à toutes les personnes qu'elle fréquentait, répondit Parrish. Voir si sa disparition a fait l'objet d'un signalement. Vous croyez qu'elle est morte à cause de lui? Ou que c'est lui qui est mort à cause d'elle? Je dirais qu'il est mort à cause d'elle, mais c'est juste une supposition, hein? 3 heures plus tard, ils avaient un nom et une adresse à Williamsburg. Ils parvinrent à remonter jusqu'au registre de la Williamsburg School grâce au service pour l'enfance. Ils appelèrent le bureau des élèves, se firent faxer une copie de son formulaire d'inscription, et là, en haut à droite, se trouvait une photo aussi nette qu'ils pouvaient l'espérer. Ils rappelèrent l'école, obtinrent le nom et le numéro de téléphone d'une certaine Hélène Jarvis, enregistrée auprès de l'école comme sa tutrice légale. La femme qu'il cherchait. À 17 h, Parrish et Radik étaient assis en silence chez un traiteur cachère de Prospect Street, près du pont de Manhattan. Parrish commanda une tartine au pastrami avec du fromage suisse fondu. Radik, un bagel grillé avec du beurre de cacahuète. Donc Rebecca habite à Williamsburg et Danny au sud de Brooklyn. Ils se voient rarement. C'est une fille sage, elle va au lycée, elle a de bonnes notes. Puis elle disparaît soudainement. Je crois que nous devrions aller parler à cette Hélène Jarvis, déclara Radik. Je suis d'avis que nous y allions maintenant. D'accord, répondit Parrish. Laissez-moi d'abord finir de manger. La circulation était plus fluide que d'habitude. Et à 18 h 45, il se garait devant le 1256 Dietmar Street. La personne qui ouvrait la porte avait au moins 45 ans, peut-être plus. Parrish reconnut immédiatement la femme de la photo qu'il avait trouvée dans l'appartement de Danny Lange. Hélène Jarvis sut qui ils étaient avant même qu'ils sortent leur plaque. Vous venez pour Rebecca, n'est-ce pas? Est-ce qu'elle a des ennuis à cause de Danny? Elle se tenait dans l'entrebâillement de la porte malgré le froid. Elle ne les invita pas à entrer. Est-ce que nous pourrions entrer, s'il vous plaît, mademoiselle Jarvis? Demanda Radik. Hélène Jarvis recula sans un mot, les guida jusqu'au salon. Parrish l'interrogea sur sa relation avec Rebecca. Elle lui demanda si elle était de la famille. « Non, » répondit-elle. « Je connaissais ses parents il y a longtemps, bien entendu. Ils sont morts, vous savez. Une véritable tragédie. Un accident de voiture, tous les deux tués sur le coup. Enfin, bref, Danny avait 18 ans à l'époque et Becky, 11 ans. « Et elle a vécu avec vous depuis ?» demanda Parrish. « Oui. Et vous êtes sa tutrice légale ?» Hélène Jarvis semble embarrassée. Je suis dans un sale pétrin, n'est-ce pas? Parrish la regarda d'un air interrogateur. Service pour l'enfance? Ajouta-t-elle. Je suis désolé, je ne comprends pas, mademoiselle Jarvis. Je savais que ça arriverait. Ça devait arriver un jour, n'est-ce pas? Quoi, mademoiselle Jarvis? Qu'est-ce qui devait arriver? Qu'on découvrirait que je ne suis pas sa tutrice légale. Mais bon, je ne pouvais pas vraiment la laisser à la charge de Danny, n'est-ce pas? Il était déjà... Eh bien, il avait déjà ses propres problèmes à gérer. Il ne voulait pas d'une gamine chez lui, vous comprenez? Et puis, il n'y avait pas d'argent. Le peu qu'il restait avait été avalé par les factures et Dieu sait quoi. Les services pour l'enfance sont venus ici. Ils ont demandé à Danny s'il s'occuperait de sa sœur. Il avait déjà 18 ans à l'époque. Il pouvait légalement le faire. Je lui ai conseillé de dire que oui, il la prendrait avec lui. Et ils sont repartis ravis de ne pas avoir un problème de plus sur les bras. J'ai alors dit à Danny de me la laisser. Il est allé vivre à Brooklyn et elle est restée avec moi. Et savez-vous qu'elle n'est pas allée à l'école depuis une semaine, mademoiselle Jarvis? Hélène Jarvis baissa la tête. Oui, répondit-elle. Je le sais. Et vous n'avez pas signalé sa disparition? Eh bien, j'ai appelé l'école mardi. Et le principal m'a rappelé pour me dire qu'elle avait manqué les cours depuis le vendredi précédent. J'ai appelé le commissariat local et on m'a dit que je devais attendre 48 heures avant de signaler sa disparition. Puis jeudi est arrivé et je me suis dit que j'allais attendre un jour de plus. Vendredi, j'ai téléphoné à Danny. Pas de réponse. Alors j'ai même envisagé de me rendre à Brooklyn pour voir si elle était avec lui. Elle a déjà fait ça, vous voyez, partir avec Danny. Elle l'a fait au moins une demi-douzaine de fois. Mais elle rentre toujours. Je suppose que c'est ce qui s'est passé. J'ai décidé de lui laisser jusqu'à samedi pour me donner des nouvelles. Je savais